silence ici, dans ce couloir qui transperce le bâtiment de l'Aubette, pour relier la place Kléber à une galerie commerciale bon chic, bon genre, devant une photo. Élégant chapeau vissé sur les têtes, col serré par d'impeccables cravates, on peut voir Théo van Doesburg, Sophie Tauber et Jean Harp traversant en 1927 d'un pas alerte la place Kléber. Cette audacieuse équipe va imaginer, à la demande des frères Horn, concessionnaires du bâtiment, les aménagements d'un complexe de loisirs. Le vocabulaire élémentaire, géométrique et abstrait des décorations, le design épuré et fonctionnel du mobilier et les différents éclairages contribuent à un projet d'œuvre d'art totale. Mais cette ambitieuse aventure esthétique n'a pas suscité l'adhésion populaire des Strasbourgeois. Les décorations seront masquées en 1938 pour être redécouvertes par hasard en 1970 à l'occasion d'un sondage. Le lieu sera classé puis restauré à partir de 1993. On peut observer sur la photo des calèches stationnées derrière nos trois pionniers de l'avant-garde artistique. Nous aurions pu y voir un tramway qui passait à cet endroit dès 1878. Empruntons le couloir, initialement décoré par Sophie Tauber Harp, pour rejoindre la place Kléber et plaçons-nous approximativement à l'endroit où nos trois protagonistes posaient, sourire aux lèvres. Là, à peu près au bord du bassin actuel. Dans notre dos, le vaste bâtiment en grès rose de l'Aubette, construit à partir de 1765, était à vocation militaire. Il faisait partie du projet de place d'armes, élaboré par Jacques-François Blondel, architecte du roi de France. Incendié lors du siège prussien de 1870, il est reconstruit par les nouveaux propriétaires de la ville. Sa façade, ornée de 12 médaillons, représentant les profils de célèbres musiciens, atteste de la présence du Conservatoire de musique entre 1877 et 1922. La place Kléber existe depuis le Moyen-Âge, mais ce n'est qu'en 1840 qu'elle prend le nom du glorieux général d'Empire. Elle fut appelée la place des Vanupiers ou Barfußerplatz en langue vernaculaire, en raison de la présence, dès 1229, sur l'emplacement de l'Aubette, d'un couvent franciscain, ordre religieux qui s'occupait des indigents. Elle s'appelle successivement Place des Cordeliers lorsque Strasbourg intègre le royaume de France en 1681, puis Place d'Armes. Le 24 juin 1840, la statue de Kléber, sous laquelle un caveau renferme son cercueil, est inaugurée. La stèle est ornée de bas-reliefs évoquant la victoire d'Héliopolis et la bataille d'Altenkirchen. Dès le retour des Allemands en juin 1940, cette place s'est rebaptisée jusqu'en 1944 Karl-Reuss-Platz, en hommage à l'autonomiste alsacien, proche des idées national-socialistes, et qui venait d'être condamné à mort par la justice française pour cause d'intelligence avec l'ennemi. Cette place est encombrée de voitures à partir des années 1930. Ne sachant plus où les mettre, un parking souterrain sera construit en 1967. Après de nombreux aménagements plus ou moins heureux, cette place n'a pas échappé à la pensée minérale des urbanistes d'aujourd'hui. En installant en 2007 de grands bassins équipés de jets d'eau, pour tenter de rafraîchir les lieux, ces penseurs d'espace se sont peut-être souvenus qu'en 1760 déjà, Jacques-François Blondel prévoyait de construire 4 puits sur cette place d'armes. Une copie de ceux-ci trône non loin d'ici, au milieu de la place du marché aux cochons de lait. À défaut d'être ombragée et propice à la flânerie, cette vaste place, bordée presque exclusivement de commerces, est l'agora idéale, entre grands sapins de Noël et événements en tout genre, pour rassembler une société de consommation. Mais c'est un rassemblement d'un autre genre qui eut lieu le 12 août 1949. Le premier ministre anglais, Winston Churchill, est apparu au balcon de l'Aubette, devant une foule compacte, pour faire un discours à l'occasion de la première session consultative du Conseil de l'Europe. Avide d'espoir de paix et de culture au sortir de la guerre, ce public applaudit à tout rompre l'homme au cigare et rit aux mots d'humour « so British » du leader anglais.
Prenez garde, je vais parler français. Je n'ai pas contre une race, je n'ai pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument.
Le temps passe, le Conseil de l'Europe fête ses 70 ans, et malgré les souhaits de Churchill, la tyrannie et la barbarie ont eu l'occasion de s'exprimer sur le vieux continent, comme en ex-Yougoslavie en 1992. Le temps s'égrène sur le cadran de l'horloge monumentale qui orne la façade asymétrique moderne style en face de nous, presque à l'angle de la rue des Grandes Arcades qui file à notre gauche. À la place de cet édifice, des maisons en pans de bois abritaient entre autres le bureau des omnibus en 1840. Elles seront détruites en 1907. L'architecte alsacien Gustav Oberthor, à qui l'on doit entre autres le magnifique bâtiment de la petite boucherie le long de la rue Haute-Montée, au dos de l'Aubette, construira le premier supermarché du vêtement en Europe, avec une structure en béton armé, pour le compte de M. Goldschmidt. L'enseigne Loden-Cigogne, placée juste au-dessus de l'horloge, balafrait légèrement la façade jusqu'en 1978.
Restons immobiles et fermons les yeux pour s'extraire du flux incessant des passants.
Seul, comme Robinson Crusoe, seul sur une île mythique comme l'Atlantide, ou alors une île prison comme El Bualcatraz, une île d'espoir comme Ellis Island, non loin de la Statue de la Liberté, ou bien seul sur une île enchantée comme celle du magicien Prospero de Shakespeare, seul sur une île où tout serait parfait comme celle de Neverland. N'auriez-vous pas envie, là, au milieu de cette houle de badauds, faire partie des 5 naufragés de l'île mystérieuse de Jules Verne? Ou alors, vous glisser dans la peau de Jim Hawkins, le juvénile héros du célèbre roman d'aventure « L'île au trésor », écrit par Robert Louis Stevenson en 1881.
J'étais quasi prisonnier, mais la mer hantait mes songes, avec les plus séduisantes perspectives d'aventure en des îles inconnues. Des heures entières, je rêvais à la carte, dont je me rappelais nettement tous les détails. Assis au coin du feu, dans la chambre de l'intendant, j'abordais cette île, en imagination, par tous les côtés possibles. Je l'explorais dans toute sa superficie. J'escaladais à 1000 reprises la montagne dite Longue-Vue, et découvrait de son sommet des paysages aussi merveilleux que divers. Tantôt l'île était peuplée de sauvages qu'il nous fallait combattre, tantôt pleine d'animaux féroces qui nous pourchassaient. Mais aucune de mes aventures imaginaires ne fut aussi étrange et dramatique que devait l'être pour nous la réalité.
-48°34'59 de latitude nord, 7°44'52 de longitude est. Nous y sommes. Une grande île au trésor, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1988. D'une superficie de 178 hectares, elle est de plus en plus arpentée tout au long de l'année par une multitude de touristes. Ils sont aisément reconnaissables par leur façon de se déplacer en groupe avec bien souvent des perches à selfie, courant derrière un guide qui agite un fanion ou une pancarte. Cette île compte quand même 18 000 insulaires qui arrivent tant bien que mal à se loger entre trésors, bureaux et commerces. Occupée bien avant l'ère chrétienne par les Celtes, cette île deviendra l'important camp romain Argentoratum. Un des trésors de la grande île est incontestablement la cathédrale Notre-Dame dont nous pouvons admirer la flèche qui tutoie le ciel. Mais d'autres trésors moins éloquents et plus récents que cette flamboyante cathédrale gothique sont éparpillés sur cette grande île. D'autres sont enfouis dans les mémoires ou se cachent dans les archives. Une des plus vieilles maisons de la place, située à l'angle de la rue de l'Outre et de la rue des Grandes Arcades, à notre gauche, dévoile une façade blanche du XVIe siècle avec des pans de bois finement sculptés. Un peu plus loin, à droite, la maison la plus étroite de la ville fut construite, dit-on, selon les souhaits d'un gardien de phare, mais ces racontars n'ont jamais pu être vérifiés. Le début du XXe siècle, avec ses révolutions technologiques et esthétiques, vont marquer sensiblement la grande île. Le comptoir général des machines parlantes se trouvait au rez-de-chaussée de la maison suivante. En déplaçant notre regard vers la droite, celui-ci est forcément attiré par la belle façade verte, juste après l'ancien palais de la bière du brasseur Schützenberger fermé en 2006. Cette façade témoigne de l'arrivée de l'Art Nouveau à Strasbourg. Les prolixes architectes Gustav Kraft et Jules Berlinguer imaginent en 1899 une structure métallique qui permet l'emploi de grandes baies vitrées, ainsi qu'en témoignent les trois premiers niveaux. Les décorations polychromes de vases fleuris du troisième étage sont caractéristiques d'un mouvement artistique qui veut rompre avec la reproduction sclérosante des anciens styles. La mercerie Gantry Manric occupera l'immeuble avant qu'il ne soit transformé en cinéma à partir de 1922. Le cinéma des Grandes Arcades fermera en 1996. En 1933, Une femme au volant, un film présumé perdu de Pierre Billon et Courte Géron, est à l'affiche du cinéma des Grandes Arcades. Rembobinons le temps. Thank you.
sommes en 1907 et les plans pour un théâtre cinématographique sont dessinés pour la société allemande Welt dans le bâtiment de l'Aubette derrière nous. Le Welt Kinograph ouvrira ses portes en 1908. Dirigeons-nous vers ce qui fut l'entrée de ce cinéma à gauche du balcon de l'Aubette. D'autres Kinographentheater vont ensuite voir le jour pour répondre à l'intérêt croissant du public pour le 7e art. Au début du 20e siècle, la Grande Île comptait 14 cinémas sans compter les brasseries qui projetaient de façon sporadique du cinématographe. En 1922, le Welt Kinograph, rebaptisé Kléber Eden, s'agrandira pour compter 186 places puis deviendra une salle d'art et d'essai. La dernière séance du cinéma Studio Kléber eut lieu le 31 mars 1987. Dirigeons-nous à présent vers cet ersatz de forêt planté en lisière du tracé du tramway. Un spécimen unique d'érable de burger y séjourne presque incognito. Répertorié sous le numéro 16297, il est là, bien rangé, comme pour contribuer à la bonne conscience écologique des édiles. En 1973, les édiles de l'époque ne s'embarrassaient pas de problèmes de conscience. Ils décidèrent purement et simplement, malgré une certaine opposition citoyenne, la destruction de la Maison Rouge, palace de style wilhelminien où séjournèrent quelques célébrités telles que Maurice Chevalier ou Winston Churchill. Imposant édifice à 5 étages, surmonté de 2 tourelles et d'un campanile, il possédait une façade néo-baroque, ajourée par de larges fenêtres sur balcon. La nouvelle Maison Rouge, avec sa façade cubiste et ses avancées déstructurées, n'a jamais pu effacer la grandiloquence de l'ancien hôtel dans la mémoire des anciens. Son architecte François Ehrenschmidt voulait peut-être créer un trait d'union avec le programme immobilier dont fut l'objet dans les années 1950 la place de l'homme de fer, toute proche. Virons justement à tribord et jetons-nous dans le tumulte ferroviaire de cette place. Plusieurs lignes s'y croisent à cadence élevée sous une rotonde de métal et de verre conçue par Guy Clapot. On n'a jamais vraiment su si les surnoms de soucoupe ou essoreuse donnés à cette œuvre furent moqueurs ou bienveillants. Les colonnes qui se dressent sur chacun des quais offrent aux voyageurs de passionnantes définitions de l'origine du nom de la place. En effet, un groupe d'écrivains, de mathématiciens fondé en 1960 s'est chargé de réinventer la toponymie de nombreuses stations de tramway. Pour Lou Lippo, ouvroir de littérature potentielle, la langue est avant tout un terrain de jeu, où l'on jongle avec des mots en utilisant des contraintes comme celles qui consisteraient, par exemple, à remplacer les substantifs « homme » et « faire » par les deuxièmes qui suivent dans un dictionnaire, ce qui donnerait la place de l'homme orchestre de fer blanc. On pourrait également remplacer les mêmes substantifs par leur définition,
ce qui donnerait alors la place de l'être appartenant à l'espèce animale la plus évoluée de la Terre, en métal blanc grisâtre, ductible, malléable, fusible à 1535 degrés. Les hypothèses oulipiennes quant à l'origine du nom de cette place, écrites sur ces pseudo-colonnes Maurice, créent une belle parenthèse poétique au milieu de ce ressac permanent et ouvrent de nouveaux horizons. Suivons les pas de l'Oulipo, élargissons notre champ de vision, prenons de la hauteur en empruntant l'escalier qui mène au balcon situé au premier étage de la tour Valentin Sorgue. Cette tour de 48 mètres fait partie d'un ensemble de 5 immeubles, très controversé lors de sa construction en 1955 par Charles Gustave Stoskopf. Elle permettait de reloger sur 15 étages l'ensemble des familles et le restaurant qui se trouvait dans le pâté d'immeubles qu'il a fallu démolir. Le restaurant panoramique Valentin Sorgue occupait le dernier étage. Il a fermé sa carte en 1991. Ce balcon, tel la une de l'Hispaniola, le navire du jeune aventurier de Stevenson, Jim Hawkins, nous donne une vue imprenable sur cette crique.
Les poulies grinçaient, le gouvernail battait, et le navire entier craquait, grondait et frémissait comme une manufacture. Je devais me tenir ferme au galoban, et tout tournait vertigineusement sous mes yeux. Car si j'étais assez bon marin lorsqu'on faisait route, rester ainsi à danser sur place comme une bouteille vide est une chose que je n'ai jamais pu supporter sans quelques nausées, en particulier le matin et à jeun. Cela en fut-il cause ? Ou bien l'aspect mélancolique de l'île, avec ses bois grisâtres, ses farouches arêtes de pierre, et le ressac, qui devant nous rejaillissait avec un bruit de tonnerre contre le rivage abrupt. En tout cas, malgré le soleil éclatant et chaud, malgré les cris des oiseaux de mer qui pêchaient autour de nous, et bien qu'on dût être fort aise d'aller à terre après une aussi longue navigation, j'avais, comme on dit, le cœur retourné. Et dès ce premier coup d'œil, je pris en grippe à tout jamais l'île au trésor.
Déplaise aux Oulipiens, la vérité sur l'origine du nom de cette place vient de la présence d'une armure que l'arquebusier François Hilbert a fixée vers 1740 sur sa façade. Une copie en fer blanc et barbe abondante est encore en place, presque en face de nous, à droite de la pharmacie qui occupa les lieux à partir de 1868. Cette harmonieuse façade en pierre de taille de style rococo est ornementé de mascarons représentant les quatre saisons. Lors des fouilles archéologiques effectuées pour la pose des rails du tramway en 1993, un ancien pont datant du Moyen-Âge a été découvert. Le pont, près des tilleuls ou des hiboux, comme il se nommait vers 1530, enjambait le fossé des tanneurs qui coupait la grande île en deux. Celui-ci sera comblé à partir de 1840 pour des raisons de salubrité. Des vestiges de l'une des portes menant à l'extérieur de la ville ont également été mis au jour, puis recouverts par le chantier du tramway en 1994. Notre regard se heurte inévitablement sur l'habillage que le designer Christian Bichère a réalisé sur les façades du grand magasin à l'angle de la rue du Noyer et de la rue Haute-Montée. Ce drapé couleur champagne, tendance bling-bling, masque une façade sans charme particulier. Mais en 1898, les fameux architectes Kraft et Berlinguer construisent un superbe édifice d'influence Art Nouveau pour le compte du fabricant de linge Erlenbach. Les magasins du Louvre deviendront ensuite les grandes galeries, après de lourdes modifications du bâti en 1925. Dans la rue du Vieux Marché au Vin, qui part à gauche, se trouvait depuis 1935 le Ciné Bref. Il est invisible d'où nous sommes, mais ce modeste cinéma diffusait dans les années 1970 des films classés X pour les spectateurs aux mœurs quelque peu coquines, avant de disparaître, comme presque tous les cinémas du quartier. Mais avant sa période pornographique, il s'était spécialisé dans les dessins animés et les films d'aventure. L'île au trésor, un film de Byron Haskins, produit par Walt Disney avec Bobby Driscoll dans le rôle de Jim Hawkins et Robert Newton dans celui de Long John Silver, fut diffusé peu après sa sortie en 1951.
Vos armes, tant d'abrutis! Ils ont ouvert le feu sur nous de l'Est!
Ils vont donner l'assaut de tous les côtés!
Taillez-les en morceaux! Brûlez-les, camarades! Brûlez ces portes! Par l'enfer qu'on les enfume! Charge vite, Jim.
Cette grande île est la cachette idéale d'histoires précieuses, souvent découvertes par le seul fait du hasard.
Même s'il n'est nul besoin d'obtenir une carte d'un marin balafré, alcoolique et acariâtre, d'affronter un pirate à la jambe de bois, rusé et brutal, de lutter contre les cerbères ou les dragons,
la quête de ces trésors ne peut s'atteindre qu'au prix de retrouvailles avec l'innocence. Reprenons notre âme d'enfant, mettons les voiles, descendons l'escalier et engageons-nous au début de la rue du jeu des enfants, dont le nom tombe à pic. L'origine du nom Kinderspielgasse reste obscure. Selon le dictionnaire allemand, commencé par les célèbres frères Grimm, le Kinderspiel pourrait être un théâtre de marionnettes. Il se pourrait donc qu'un ou plusieurs théâtres de ce type se trouvaient dans cette rue. En tous les cas, l'association de la rue du jeu des enfants a su exprimer son âme d'enfant à travers les différents aménagements qu'elle a réalisés dans cette rue en 2017. Avec l'aide de l'ACP, Laboratoire d'Architecture Alternatif, elle a transformé cet espace public, auparavant encombré de voitures, en un interstice coloré du ciel au pavé et en partie piéton.
Des terrasses citoyennes, des mobiles suspendus, une cabane au savoir, un hôtel pour insectes, une trocothèque, des touches subtiles de végétalisation, du papier peint collé au mur, invite à ralentir le pas.
L'envie de jouer nous prend. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Arrêtons-nous devant le numéro 54. Les amateurs de tapas ne savent sans doute pas que c'est dans cet édifice, dont il reste encore la belle façade coincée entre deux immeubles modernes, que Jean Fischer brassa la première bière du pêcheur en 1821. La brasserie de l'Ours Blanc était une véritable institution à Strasbourg jusqu'en 1987, date de sa fermeture. Elle sera démolie en 1989, malgré une certaine mobilisation populaire. Profitons de cette marée de pavés colorés pour descendre jusqu'au croisement de la rue Anong. Au numéro 44, la maison qui fait le coin, est née l'une des reines de Paris à la belle époque jusqu'au début des années folles. L'actrice et cantatrice Amélie Dieterlé, plus connue sous son nom de scène Amélie Laurent, fut également collectionneuse d'art et la muse des peintres Auguste Renoir et Henri de Toulouse-Lautrec. Icône de la mode, elle est la belle amie de Paul Gallimard, le père de l'éditeur. Elle inspirera le poète Stéphane Mallarmé et mourra à Cannes en 1941. Quant à Charles-François Anong, potier d'origine hollandaise, il s'installe à Strasbourg vers 1709. À l'époque, son métier se limitait à la fabrication de pipes en terre, mais la renommée de sa manufacture va se développer vers 1720 lorsque les premières faïences sortirent de son atelier. Celui-ci se trouvait à l'angle aux 46 rues du jeu des enfants. La rue Anong prendra le nom du faïencier qu'à partir du XXe siècle. Auparavant, elle s'appelait rue du Foulon et n'avait pas bonne réputation au début du XXe. Le numéro 18, qui a gardé une très belle façade du XVIIIe siècle, à droite après la résidence hôtelière, fut un lieu de prostitution. Continuons d'arpenter les pavés colorés de la rue du Jeu des Enfants. Laissons le cinéma à notre droite, un des rares résistants face à la mode des multiplexes, et dirigeons-nous vers le magnifique oriel surplombant la terrasse d'un restaurant à une cinquantaine de mètres à droite. Il rompt majestueusement l'alignement des façades de la rue. L'immeuble du numéro 25 a été construit dans le style Renaissance qui caractérise encore les deux étages principaux avec leurs fenêtres à meneaux. S'il a perdu son couronnement d'origine, l'oriel repose toujours sur un cul de lampe formé d'une belle voûte à ogives curvilignes. Ce style ajouré à pilastres d'angle relève d'un schéma très en vogue à Strasbourg dans les années 1580.
admirons comment les siècles se côtoient en observant presque en face, à l'angle gauche de l'impasse du jeu des enfants, les ferronneries Art Nouveau des balcons du numéro 35. Poursuivons notre périple. Nous arrivons derrière la place du vieux marché au vin, dessiné par les incontournables Kraft et Berlinguer. La double fontaine monumentale en grès a été érigée en 1898 en hommage à la famille Stöber, ardent partisan de la poésie en dialecte alsacien au XIXe siècle. La ligne sinueuse en pointillé peinte sur le sol est encore une invitation au jeu. Êtes-vous plutôt chat perché ou bien marelle, pierre-feuille-ciseau ou bien ballot prisonnier? Les trésors de cette grande île préfèrent, eux, jouer à cache-cache. Un peu comme cette vieille publicité peinte pour la crème Eclipse qui éclipse tous les cirages. La voyez-vous? Là-bas, en haut, sur le pignon en brique du plus haut immeuble de la petite rue du vieux marché au vin qui passe presque devant la place. Cet immeuble remarquable fut, comme de nombreux autres, fortement endommagé ou détruit par les bombardements aériens du 11 août ou du 25 septembre 1944. Il en est un des trésors inestimables, éclipsé par le temps. À quelques pas d'ici, en poursuivant notre marche sur la rue du Jeu des Enfants, en direction du clocher de l'église Saint-Pierre-le-Vieux qui se profile au loin, arrêtons-nous devant le numéro 16. Difficile d'imaginer qu'à la place de cet hôtel d'une froide banalité se trouvait le Strasburger Variété Theater de Georges Bruckmann. On y venait pour applaudir prestidigitateurs, chanteurs, acrobates et artistes de musical en tout genre. On y dansait le samedi soir et les jours de fête. La maison avait une scandaleuse réputation auprès des bons chanoines de Saint-Pierre-le-Vieux qui habitaient dans la rue. Mais le plus extraordinaire est que ce cabaret très populaire fut le lieu de la première projection cinématographique en Alsace le 15 juin 1896. À peine 6 mois après la première projection des Frères Lumière qui eut lieu le 22 décembre 1895 dans le sous-sol d'un café parisien boulevard des Capucines. Une pancarte à l'entrée du Variété Théâtre informait les passants. Tous les jours, présentation de la nouvelle invention, photographies animées, représentation toutes les demi-heures, entrée 1 mark. L'entreprenant Georges Bruckmann, propriétaire du Variété Théâtre, acquiert une parcelle au bout de la rue du Jeu des Enfants. Il y fait démolir les vieilles maisons et construit en 1900 l'Hôtel Continental sur les plans de l'architecte Charles Stiefel. Progressons jusqu'au bout de la rue pour admirer la riche façade de cet hôtel dont le style néoclassique avec ses deux luxuriants balcons dénote quelque peu dans la rue. Thank you.
inexploité entre 1916 et 1918, l'établissement changera de propriétaire en 1923. La brasserie Météor occupera le rez-de-chaussée jusque dans les années 1950. Le bâtiment d'en face abritait le siège de l'électricité de Strasbourg entre 1927 et 1994. Cet imposant immeuble fut construit entre 1914 et 1915 pour la Banque d'Alsace et de Lorraine au moment de la Grande Percée. On peut encore voir à deux fenêtres du premier étage les traces d'un locataire qui occupa les lieux de 1995 à 2004. Suivons la façade, contournons le bâtiment et engageons-nous dans la rue du 22 novembre pour admirer les quatre statues allégoriques représentant les quatre éléments. En allant sur la chaussée pour prendre un peu de recul, on aperçoit
l'air, l'eau, la terre, et le feu.
Qui pose successivement au-dessus des arcades entre des fenêtres du premier étage. La Neue Strasse est la première partie de la Grande Percée, entre l'église Saint-Pierre-le-Vieux et la place Kléber. De nombreuses maisons alsaciennes en pans de bois ont été démolies à partir de 1910 afin de faciliter la circulation, créer de nouveaux espaces commerciaux et améliorer, selon les autorités allemandes de l'époque, la sécurité et la salubrité du quartier. Les habitants expropriés ont été relogés dans la cité-jardin du Stockfeld créée à cette occasion. Cette rue fut rebaptisée rue du 22 novembre en souvenir du jour de l'entrée triomphale des troupes françaises du général Gouraud en 1918. Les Allemands, qui eurent la même idée quand ils revinrent en 1940, s'empressèrent de la renommer rue du 19 juin. À la libération, le 23 novembre 1944, la rue retrouva son nom actuel. Le cinéma central, dans le bâtiment qui jouxte l'ancien siège de l'électricité de Strasbourg, avait une salle unique de presque 1000 places. Conçu par l'architecte René Haug, il ouvrira en 1934. C'est en 1962 qu'eut lieu, dans ce cinéma baptisé Le Capitole après la guerre, l'avant-première du film culte Le jour le plus long. En cinémascope, avec sa brochette de star hollywoodienne.
Enfin l'aurore. Ça fait encore une nuit sans sommeil pour rien. Un coup d'œil avant de partir. Rien. Il n'y a même pas une... Le débarquement. Ils arrivent.
Alors, Herr Oberstleutnant, c'est le débarquement. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires là devant moi.
Un peu de sang-froid, mon cher Ploskat. Les Américains et les Anglais à eux tous n'ont pas la moitié de ces navires.
C'est idiot. Si vous ne me croyez pas, venez voir vous-même. Ils sont des milliers. C'est fantastique. C'est incroyable. Et on ne peut pas réaliser.
Mon cher Ploskat, de quel côté se dirige tous ces navires ?
Sur moi, direct !
le cinéma fermera ses portes en 2003 pour être transformé en bureau de poste. L'alignement haussmannien des façades soignées de cette rue nous invite à la vigilance pour saisir des détails, des fragments d'histoire. Ainsi, apprenons-nous par une plaque en cuivre qu'Antoine de Saint-Exupéry séjourna au numéro 12 en face, le temps de faire son service militaire à l'aéroport du Polygone en 1921. Continuons doucement notre chemin, dépassons la rue Gustave Doré à notre gauche.
E ha avuto anche
quando io dai dei peduzzi zia Laura che ne vodi che sorri non ne
vodi. No, c'erano le sorelle della mamma a casa.
Arrêtons-nous devant le cinéma qui porte le nom du célèbre aviateur, à droite. Cet immeuble doté d'un magnifique balcon orné de poutis au dernier étage fut construit en 1913 par Édouard Schimpf pour le compte d'un négociant en vin. Après la Taverne Royale en 1920, puis le Dancing franco-belge en 1922, c'est en 1972 que le cinéma Omnia s'installe et occulte les fenêtres du premier étage. Poursuivons cette grande percée comme le faisait le tramway jusqu'en juillet 1956. Dépassons la rue Anong et son magnifique hôtel à l'angle, rappelant les villas italiennes avec ce balcon filant sur les deux côtés de la façade. La flèche de la cathédrale, qui dépasse les sommets des immeubles imposants de la rue du 22 novembre, est un précieux amer pour nous, navigateurs. Suivons doucement cette direction, jusqu'au bord du fossé des tanneurs. Franchissons la rue du Fossé des Tanneurs qui coulait jadis pour aller se déverser dans un canal de la Petite France et engageons-nous à quelques mètres à gauche dans la rue du Coin Brûlé. La vieille bâtisse qui fait l'angle à droite est une des rares rescapées de la Grande Percée. En 1384, le feu prit dans une maison située au bord du fossé des tanneurs et se propagea rapidement dans le quartier. Il détruisit 166 maisons et ne put être maîtrisé qu'au coin de la petite rue derrière la Maison Rouge. C'est à l'occasion de ce malheureux événement que cette rue prit le nom de Brandenende, la fin de l'incendie. Ce nom est gravé sur la pierre angulaire de la maison Zum Jüngling, qui marque l'intersection avec la Kleine Städtelgasse, l'actuelle rue de la Grange à quelques mètres. La date de 1776, qui accompagne le bas-relief d'une bretzel à droite de la porte d'entrée, atteste de la très vieille vocation de la maison. Une deuxième représentation de la célèbre pâtisserie salée est visible depuis la rue de la Grange. La bretzel, à l'abri d'une poutre et tenue par deux lions en équilibre sur des petits chapiteaux, semble être l'emblème de la corporation des boulangers. Mais cette maison, malgré son grand âge, n'était pas le siège de cette corporation dont l'histoire a oublié le lieu exact. Connaissez-vous l'origine de cet emblème alsacien qu'est là où le bretzel ? Je vais vous la conter pendant que nous poursuivons doucement notre chemin jusqu'à la place Kléber qui se profile devant nous. Il était une fois un boulanger de la cour qui fut emprisonné par le roi après avoir mal cuit son pain. La femme du boulanger vint quémander auprès du roi sa clémence. Le boulanger serait libre s'il inventait sous 3 jours un pain au travers duquel le soleil brillerait 3 fois. Alors que le boulanger cherchait désespérément la solution, il vit sa femme prier à genoux pour lui, les bras posés sur sa poitrine en forme de croix. Il croisa les deux extrémités d'un ruban de pâte pour reproduire la posture qu'avait adoptée sa femme, formant ainsi 3 trous à travers lesquels le soleil pouvait briller 3 fois, comme l'exigeait le roi. Au moment d'enfourner, le chat du boulanger fit tomber accidentellement sur la pâte une solution de bicarbonate de soude qui servait à nettoyer les plaques de four. N'ayant plus assez de temps pour pétrir la nouvelle pâte, le boulanger l'enfourna telle quelle et donna naissance à la bretzel saumurée. Le boulanger fut libéré, mais l'histoire ne dit pas si le roi apprécia la pâtisserie. Retrouvons l'effervescence de la place Kléber et progressons jusqu'à l'intersection avec la rue du 22 novembre à notre droite.
Merci, hein, je vais me lever.
Jetons l'ancre. Devant une espèce en voie de disparition, le kiosque à journaux. Et tentons d'imaginer l'extraordinaire chantier que fut cette grande île à partir de 1910. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Les inévitables Kraft et Berninger construisent en 1912, à gauche de l'actuel kiosque à journaux, le Kaufhaus moderne, qui servira pendant la guerre de stockage pour denrées alimentaires. En 1920, reconstruit après un incendie, il devient les magasins modernes, dont la contraction Magmod est encore dans les mémoires de nombreux Strasbourgeois. La façade Art Nouveau est une belle synthèse d'inspiration française et germanique. Les 4 statues au-dessous du fronton représentent les 4 saisons. notre droite, le grand immeuble d'habitation et de commerce, construit au même moment par l'architecte Louis Grunewald, avec ses belles façades en grès, est surnommé le Petit Paris. Siège du Club de la Presse, entre autres, il héberge aussi l'énigmatique bureau d'un détective. Présence sans doute plus discrète lors de ses filatures que sur le balcon du premier étage. Derrière nous, l'immeuble construit par Paul Horn en 1910, devant lequel la Grande Percée débouche, a une place de choix. Il abrite une librairie depuis 1962. C'est encore Paul Horn, futur initiateur de l'utopie artistique de l'Aubette, qui construira en 1913, dans l'immeuble mitoyen, le premier véritable théâtre cinématographique. Baptisé Union Theater en référence au célèbre Union Theater de l'Alexanderplatz à Berlin, il sera inauguré en 1914. Après s'être appelé ABC, puis fermé pendant quelques temps, ce cinéma s'appelle depuis 1992 l'Odyssée. Son élégant vestibule, sa grande salle, son balcon majestueux, son rideau rouge, ses moulures dorées, son gigantesque lustre. Tout est encore là pour dévoiler les trésors du cinéma. Je me souviens d'avoir vu un film de Victor Fleming, réalisé en 1934, d'après le roman de Robert Louis Stevenson. Produit par la Metro-Goldwyn-Mayer, avec entre autres Jackie Cooper dans le rôle de Jim Hawkins, Wallace Beery dans celui de Long John Silver. Une île au trésor, en noir et blanc, qui fait rêver, comme toutes les îles au trésor.
You might be meeting me, the captain, huh?
I guess so.
All right. And who do you think would come hobbling along for that berth but old Long John Silver? It'd be honest Long John then. And together we'd go down there and dig up that treasure and we'd scour all the seas for all the treasures on those islands. And we'd hunt goats and fight camels. It's true, matey. Certain we will.
Certain we will.
C'était L'île au trésor, une promenade sonore produite par la compagnie Le Bruit que ça coûte. Prise de son, musique, texte, mise en voix et montage, Philippe Aubry. Mise en voix des fragments de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, Jean-Yves André. Source historique, INA, archiwiki.org et maisondestrasbourg.fr.